Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours ravis quand nous vous savons très nombreux sur la 93.5 et également sur nos différentes plateformes digitales pour suivre cette émission à partir de 11h sur votre radio, bien sûr. Les gares routières du Grand Lomé disposent désormais d'un commissariat spécial de police. L'infrastructure a été inaugurée le mercredi dernier par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Kalice Batossi Madjouba, basé dans la commune Golf 5. Le nouveau commissariat a pour mission de renforcer la présence policière dans ces espaces stratégiques et de lutter contre l'immigration clandestine ainsi que la prolifération des gares routières sauvages. Il vise également à garantir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous parlerons du sujet, puisque le sujet nous intéresse. Nous parlerons bien sûr du sujet dans cette émission et nous aborderons d'autres sujets liés à la actualité telle qu'évoquée par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse à l'heure de ce vendredi 28 mars 2025. Et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassaa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Thierry Afanoukoué. Bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Ah, on rend grâce à Dieu.
Dieu, merci. Et merci d'avoir accepté aussi notre invitation.
Merci pour l'invitation.
D'accord. Et Firmé Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Oui, on va bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Mmh. C'est ce Dieu-là, ce grand Dieu qui nous bénit, qui nous donne la santé, qui nous assure tout. Grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes. Nous le disons encore une fois merci.
Nous devons être toujours reconnaissants envers ce grand Dieu et qui, justement, tel que vous l'avez dit, grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes et nous avons la vie.
Nous avons la vie, c'est la chose la plus importante. La vie, il n'y a que lui qui l'assure à l'individu. Donc, il nous l'a encore assuré. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants.
C'est important. Merci d'avoir accepté notre invitation. Firmé Teko Agbo, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique et vous intervenez bien sûr alors dans cette émission pour le débat et l'analyse alors des sujets liés à l'actualité. Sujets liés à l'actualité, je l'évoquais déjà tout au début alors de cette émission. On en parle, Thierry Afanoukoué, c'est vrai, les gares routières du Grand Lomé disposent désormais d'un commissariat spécial de police. Et l'infrastructure, telle que je l'ai dit, a été inaugurée le mercredi dernier et c'était par le ministre de la sécurité, Kalis Batossi Madjoulba. Alors, on pourra dire quand même que le Grand Lomé a vraiment besoin d'un commissariat qui est spécialisé, surtout, qui sera même d'ailleurs spécialisé pour les gares routières, c'est ça?
Oui, vous savez, notre pays est confronté au problème de sécurité, surtout dans le Grand Nord. Du Togo avec le problème des terroristes, et vous n'êtes pas sans savoir que dans les gares routières il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se font dans ces gares routières. On charge des gens et on charge les personnes, de même que leurs biens, et on les décharge également. Donc il y a de quoi à ce que dans ces gares routières il puisse y avoir un dispositif de sécurité pour contrôler les entrées et les sorties. Et dans les gares routières également, il y a beaucoup de choses qui se passe, et vous n'êtes pas sans savoir que dans certains gares routières il y a des ghettos qui se développent, et il faut forcément ou nécessairement la présence des forces de l'ordre pour contrôler et surveiller tout ce qui se passe. Alors le ministre Madjoulba, depuis qu'il est arrivé, il fait un travail impressionnant. Je m'explique, parce que lorsqu'il est porté à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il a demandé à ce que chaque commune puisse disposer d'un commissariat, au moins d'un commissariat. Ça a été fait, et maintenant il s'attaque aux problèmes et l'insécurité qui règne dans les gares routières. Je crois que cette présence renforcée des forces armées, plutôt des forces de l'ordre, notamment les policiers, va dissuader toute pratique illégale, va décourager le banditisme qui se développe donc dans ces gares routières là, et il faut dire que cela va renforcer davantage notre sécurité dans le pays. Je suis tenté de dire également que il faut penser à surveiller ou à contrôler tout ce qui se passe également dans les gares routières privées. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a tellement de gares routières privées dans notre pays, et parce que c'est privé, on ne sait pas ce qu'on charge et ce qu'on décharge forcément, alors que nous sommes exposés, je l'ai dit tantôt, au problème de terrorisme. Donc il faut regarder également ce qui se passe de ce côté-là. Donc c'est très important d'abord demander aux mairies, certainement c'est les mairies qui délivrent les autorisations après les autres formalités. À ces gares-là, il faudrait qu'on puisse contrôler véritablement qui est qui s'installe ou qui vient pour ouvrir les gares routières dans nos communes ou dans notre pays.
Merci Thierry. Oui, Firmin, et quand on parle alors des gares routières, il est très important qu'il y ait de la sécurité. Thierry a évoquer un certain nombre de paramètres tout de suite, concernant même d'ailleurs le terrorisme et tout. Donc, on pourra dire que ce commissariat qui est dédié aux gares routières est en quelque sorte le bienvenu.
Vous savez, la population de Lomé en 2003, je pense que c'était 1 million. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 2 millions. Ça veut dire que Lomé s'agrandit. Vous savez, quand vous voyez un peu Lomé, il y a assez de compagnies privées de transport. Donc, je ne vais pas donner le nom. Si vous voulez aller à Carra aujourd'hui, vous avez un certain nombre de compagnies chez qui vous pouvez vous diriger. Donc, or, avant, c'était juste les 9 places, les 15 places. Ça veut dire que Lomé s'agrandit en termes de population, Lomé s'agrandit en termes de business, Lomé s'agrandit en termes de structure, en termes de société, de transport. Donc, il y a tout un mélange, un certain nombre de choses. Dans le dispositif sécuritaire qu'il y avait peut-être dans les années 2003, début 2000, ce dispositif doit nettement évoluer. Et je pense que c'est ça qui aurait forcément inspiré les autorités sécuritaires, donc avec à sa tête c'est le ministre Batoussi Madjoulba. Donc aujourd'hui, cela c'est déjà fait, mais il faut qu'on s'attaque aussi à ces compagnies privées, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a assez de compagnies aujourd'hui qui gèrent Lomé Dapan, Lomé Savane, Lomé Kara, Lomé Bassa.
C'est-à-dire les autres villes,
les autres villes. Donc il y a beaucoup de personnes qui reviennent aussi de là. Donc il y a des gens qui sont se fraudent régulièrement avec le Nord, qui quittent le Burkina Faso pour rentrer dans le Togo. Il y a assez de flux sur nos routes. Donc qui est qui, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement. Qu'est-ce qui rentre dans le pays? On ne sait pas, parce que quand vous allez peut-être à LK ou à d'autres, on ne vous fouille pas, il n'y a pas de dispositif sécurité à ce niveau. Et quand vous rentrez aussi, personne ne fouille vos bagages. Bon, on ne demande pas ce qui est tellement, qu'on nous gêne assez, mais qu'on élargisse un peu le dispositif pour que ça puisse atteindre tous les secteurs, tous les niveaux. Et là, on serait sûr que le contrôle est en train d'être efficace, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, on ne sait pas qui est qui. C'est une guerre asymétrique. On ne sait pas ce que les gens transportent dans leur bagage. On ne sait pas ce que les gens transportent sur eux, alors qu'ils rentrent dans le pays règlement, qu'ils viennent facilement ici. Donc, je pense que le problème, il est là. Le travail, il est fait. Mais je pense qu'il faille élargir le domaine d'action de ce commissariat, pas seulement les gares routières qu'on connaît. Mais le dispositif de sécurité, ça nécessite beaucoup de moyens. Là, on a besoin d'assez de moyens. Donc, qu'on puisse mettre à leur disposition assez de moyens, ce commissariat-là, assez de moyens pour que le travail puisse être efficace. Parce que ce qu'ils font, c'est notre sécurité. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres peuvent penser. C'est notre sécurité. Et donc, pour cette sécurité-là, donc il faut que ceux qui disposent de la cagnotte de l'État mettent assez de moyens à leur disposition pour que le travail puisse être efficace.
Et Thierry, quand on parle de sécurité, tout récemment, c'est vrai, la sécurité, ça doit concerner aussi nos marchés. Oui. Tout récemment, il y a au niveau alors de la commune du Golfe 1, la mairie a réhabilité le marché de baies, et après réhabilitation, ce qui a été encore impressionnant, c'est que ce marché a été équipé maintenant des caméras, et 36 caméras ont été placées, et des vidéos surveillance bien sûr ont été placées alors sur dans tout le marché, et pour sécuriser même le marché, je pense quand même que c'est une première, et il faut apprécier cela.
Oui, c'est un début au niveau de la commune Golfe 1. Je crois que c'est un essai, puisque les autorités communales ont promis étendre le dispositif aux autres marchés relevant de leur territoire communal. Donc on attend de voir ce marché-là qui est maintenant sous vidéosurveillance. Je crois que c'est une bonne chose. D'abord, c'est pour la sécurité des commerçants et commerçantes de ce marché, et c'est pour également la sécurité des marchandises. En plus de cela, c'est aussi pour la sécurité des visiteurs, ceux qui viennent, ceux qui visitent donc ce marché-là. Et au-delà de ça, ce dispositif-là va permettre au marché de baie d'être speed au cas où un incendie survenait. Donc c'est l'explication qui a été donnée donc par les premiers responsables de cette commune là. Je crois que ça doit inspirer également les autres marchés ou les autres communes. Tout est question de vision et de moyens, hein, parce que je crois que c'est un travail qui a été fait sur fonds propres de la commune. Donc on attend le résultat que cela va donner. Vous savez, dans les marchés aussi, des fois, depuis quelques années, les bonnes dames n'amènent plus leurs marchandises à la maison. Les marchandises sont gardées dans les marchés, mais quand ces dames-là reviennent le lendemain, elles se plaignent du fait que leurs marchandises ont été volées. Alors, avec ce dispositif-là, les 36 caméras qui ont été placées et dans le marché et tout autour du marché. Je crois que la sécurité est au rendez-vous. Mais vous permettez que je puisse revenir donc sur, je crois, ce qui se passe au marché de baies doit aussi inspirer les gares routières. Tout cela va renforcer davantage la sécurité dont nous parlons. Et ce commissariat spécial des gares routières du Grand Lomé aura, entre autres, pour mission d'identifier, de démanteler les gares anarchiques qui prolifèrent sans autorisation et perturbent donc l'organisation du transport routier. Cela va également participer au renforcement du contrôle des engins, des marchandises et des personnes aux entrées et sorties des gares routières afin de lutter contre les trafics et autres activités illégales. Ça va participer également à assurer, ou du moins la police administrative ça va contribuer au respect donc des lois et règlements en vigueur et sécuriser également les gares routières en tant que lieux sensibles, protégeant ainsi efficacement les personnes et les biens, et organiser donc les patrouilles. Le commissariat va organiser donc les patrouilles régulières aux abords des gares pour prévenir la criminalité et dissuader les comportements à risque. Donc voilà ce qui est confié à ce commissariat là. Vous savez qu'à Lomé nous avons 13 communes, donc je crois un travail va être fait ou c'est déjà fait. On doit recenser toutes les gares routières autorisées ou régulières, et je crois que le travail va se faire dans ce sens là. Donc Fimel a si bien dit, il faut un équipement. Vous savez, quand vous allez dans nos commissariats ou dans nos gendarmeries aujourd'hui, vous avez un problème, c'est vous qui apportez le problème, qu'on sollicite encore de mettre un véhicule à la disposition des agents pour faire le déplacement. Je crois que c'est des choses qui sont à décourager. Donc je crois que les plus hautes autorités de notre pays doivent penser à renforcer le dispositif matériel de nos commissariats et de nos gendarmeries. Alors, vous voyez, vous qui êtes dans un problème, vous sollicitez l'appui des forces de l'ordre. Si vous n'avez pas les moyens, donc, écoutez, on ne peut pas faire une descente sur le terrain pour vous, parce que il vous revient de louer forcément un véhicule ou de mettre un moyen de déplacement à la disposition de l'agent avant qu'on ne vous suive pour vous aider dans votre problème.
Merci Thierry. Oui, Fébin, on revient sur cette question alors de marché équipé de caméras ou de vidéosurveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être une initiative que l'État doit prendre, puisque nous connaissons ces derniers temps avec les incendies dans les marchés. Et finalement, est-ce que l'État, même déjà au sommet, est-ce qu'on ne doit pas prendre vraiment des mesures comme cela pour arriver à décourager même d'ailleurs aussi ces situations?
Non, moi je ne veux même pas aller sur le thème décourager. C'est-à-dire ça doit être dans notre politique, l'esthétique, parce que quand vous parlez de caméra et tout ça, c'est l'esthétique, c'est du modernisme en fait. Vous savez, je me rappelle très bien...
Au-delà de l'esthétique, c'est la sécurité qui est assurée.
Oui, la sécurité, c'est-à-dire, je vais en venir. Vous savez, il y a de cela, peut-être une vingtaine d'années, j'avais un ami qui était revenu des États-Unis. Donc à l'époque, c'était l'ancien aéroport international de Lomé, pas le nouvel aéroport. Donc quand il est revenu, j'ai dit, voilà, et cet aéroport et les aéroports aux États-Unis. Il a souri et puis il me dit, mais votre aéroport là, c'est une gare routière aux États-Unis. C'est ce qu'il m'a dit, c'est une gare routière aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Nous avons tout d'abord des gares routières, des infrastructures que nous qualifions de modernes, qui ne sont pas au fait modernes. Tout d'abord, nous commençons avec les gares routières. Les gares routières que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elles sont modernes? Est-ce qu'elles sont modernes? Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que c'est du beau quand vous y allez? Avant d'entrer, il y a les compagnies de transport privé qui naissent, sont un peu modernes, même avant vous pouvez vous enregistrer en ligne, ainsi de suite. Il y a le numérique qui commence par s'y installer. Maintenant, est-ce que dans nos gares routières, est-ce qu'on cherche à les moderniser? Parce qu'autant on cherche à les moderniser, autant ça crée encore plus d'emplois. Autant que ça crée encore plus de structure. C'est du beau. Et il faut aller à cette école-là. Au niveau du commissariat, mais vous savez, nous avons assez de commissariats aussi. Mais à ce niveau, nous demandons ce qui est encore plus de moyens et plus de modernité, plus de modernisme. Quand vous allez dans les commissariats, que ce soit beau, en fait. Que ce soit beau. C'est parce que quand c'est beau, c'est l'image du pays. C'est notre image. C'est ce à quoi j'appelle. Et quand vous parlez aussi du marché de baies, vous savez, le maire, c'est Goff 1, c'est le maire Gomado. Le maire Gomado fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Ça doit inspirer un certain nombre de maires. Sur ce point, peut-être, je vais lancer une pique. J'ai remarqué une chose. Quand on va aux élections, et quand il y a peut-être des anciens fonctionnaires, et de l'autre côté, des privés qui vont aux élections, et quand des privés gagnent et s'installent à la tête de certaines institutions, vous allez voir la différence. Parce que le privé, il a passé toute sa vie à se battre pour aller chercher de l'argent partout. Et quand il vient encore à la tête d'une institution, ici, il commence toujours par fouiller pour aller chercher de l'argent. Vous imaginez, c'est quelque chose dans le monde économique. Alors, c'est pour moi, je souhaiterais ce qui est à l'avenir, qui est assez de privés, qui se positionnent pour les élections. C'est-à-dire les locales qui arrivent. Et quand on aura des privés maires, ou des gens qui ont des sociétés, mais qui sont maires, ils vont savoir comment aller chercher de l'argent. Et sur ce point aussi, l'État doit revoir sa cagnotte qu'il met à la disposition des communes. Parce que quand vous mettez assez de moyens à la disposition des communes, les communes peuvent surprendre, peuvent faire beaucoup de choses, peuvent moderniser. C'est le premier mandat. Le deuxième mandat, on sait qu'ils ont appris avec ce premier mandat. Le deuxième mandat, peut-être, ça va être beaucoup plus étincelant. Pour conclure, l'objectif aujourd'hui, ou ce que l'État doit poursuivre, c'est chercher à moderniser. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de modernisation, il y a la sécurité qui est inclue tout systématiquement. Parce que quand on parle de gare routière, c'est la sécurité. On parle de la sécurité. Quand on modernise les marchés, les caméras là sont mises. Bien sûr, ça rend beau, c'est beau. Mais au-delà, les caméras sont en train de jouer un rôle sécuritaire. C'est-à-dire, avec les caméras, il y a des gens qui suivent tous les mouvements sur les écrans. Donc, il faut que l'État mette assez de moyens, je ne parle toujours de moyens, assez de moyens dans ces modernisations-là. Autant on multiplie les caméras, autant on rend beau les situations, autant on crée de l'emploi, autant on assure la sécurité.
Autant créer de l'emploi, autant on assure la sécurité. Thierry, c'est vrai que on en parlait hier par rapport surtout à ces Togolais qui cherchent à partir, à quitter le pays. Et c'est en quelque sorte sur la base alors d'un sondage Afrobaromètre. Justement, il y a le journal, le Canard indépendant qui revient sur le sujet. Le journal écrit « Les Togolais cherchent à fuir la misère ambiante ». Mais quand on suit justement ces résultats du sondage Afrobaromètre, on comprend que beaucoup de Togolais ou des Togolais cherchent maintenant à partir.
Oui, vous savez, les gens cherchent à partir parce que certains ont perdu donc confiance dans notre pays par rapport à la gouvernance, par rapport à la politique, par rapport à un certain paramètre. Beaucoup quittent le pays parce que ils n'ont pas d'emploi. Le gouvernement fait ce qu'il fait, mais ce n'est toujours pas à la hauteur des attentes. Par exemple, pour le gouvernement, il faut favoriser l'installation des entreprises dans notre pays. C'est cela qui amène d'ailleurs à l'amélioration du climat des affaires. Et ces entreprises-là s'installent ou bénéficient des statuts, des avantages de la zone franche. Malheureusement, dans ces industries-là qui sont censées donner du travail aux Togolais, ne contribue pas ou ne participe pas aux épanouissements des Togolais que nous sommes. Parce que là, le SMIC aujourd'hui, c'est à plus de 56 000, si je ne me trompe.
52 000,
c'est ça. Voilà, 52 000, merci pour le chiffre, 52 000. Mais malheureusement, il faut faire un tour dans ces industries-là, ou du moins dans ces entreprises-là. Beaucoup n'atteignent pas ou ne perçoivent pas le SMIC. Alors, alors que cela a été décidé par le gouvernement, le patronat et tout ce qui va avec, ça fait déjà des années. Mais rien n'est fait pour amener les uns et les autres au respect de cela. Et on maltraite les Togolais qui travaillent, comment on appelle-t-on,
dans
les zones franches. Je crois que il y a encore quelques jours, le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo Kwame est revenu là-dessus pour de simples revendications. On vous enferme, on vous emprisonne pour de simples revendications, on vous licencie. Des fois, on se demande où est l'État togolais. Tout cela décourage, tout cela démotive, tout cela amène les Togolais à chercher l'Eldorado ailleurs. Alors que dans notre pays, Pascal, il y a de l'argent dans ce pays. S'il n'y a pas d'argent, vous n'allez pas voir tous ces étrangers-là. Vous prenez tout juste l'exemple des fast-food. J'en connais. Vous ne pouvez pas imaginer le chiffre d'affaires que ces fast-food-là détenus par des étrangers réalisent par jour plutôt. Mais allez voir les conditions dans lesquelles les Togolais qui travaillent là-bas font leur job. Ça énerve, ça révolte. C'est tout cela qui amène les gens à quitter. Même aujourd'hui, les gens, je crois, on a proclamé un dernier résultat des concours de la fonction publique au point où les gens étaient également répartis. Mais dans le lot, bien que les gens viennent de trouver de l'emploi dans le lot, il y a beaucoup qui n'ont toujours pas abandonné leur rêve de partir. Que ça soit dans l'armée, c'est comme ça que les gens partent. Que ça soit des fonctionnaires des banques, les gens ne font que partir. Que ça soit au niveau des enseignants, les gens, quand ils trouvent l'occasion, ils partent. Que ça soit partout, même les confrères journalistes. Les gens ne guettent qu'une occasion pour se retrouver de l'autre côté. C'est ça la réalité. Et tout cela, en réalité, doit amener nos autorités à réfléchir. Si les gens quittent le pays ainsi, c'est parce qu'il y a un réel problème. L'argent ne circule pas. On en parle tous les temps. Mais les gens pensent qu'on s'amuse. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, avec cette histoire de transition-là, les gens sont essoufflés. Pour nous-mêmes les journalistes, il n'y a plus tellement d'activités, il n'y a plus tellement de sollicitations de couverture médiatique. Donc pour joindre les deux bouts, c'est difficile. C'est ça la réalité. Mais ceux qui nous gouvernent, on a l'impression qu'ils sont à un niveau donné, qu'eux, ils ne sentent pas la chaleur qui est en bas. Donc, parce que les gars, ils n'achètent plus du carburant, ils ne payent plus peut-être l'électricité, ils ne payent plus l'eau, quand il faut se soigner, ils ont l'assurance et tous les avantages qui vont. Donc, quand on leur parle, ils pensent que on est en train de mentir, mais c'est la réalité. Mais ils doivent se rendre compte de l'évidence quand chaque jour que Dieu fait, ils ont des appels, des cousins et des cousines, des petits frères et des petites sœurs, des parents qui les sollicitent pour 5 000, pour 2 000, pour manger, pour aller à l'hôpital, pour faire ci et ça. Donc ça, c'est un indicateur important. Ça doit leur montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tout le monde est bien dans le pays, je ne crois pas que quelqu'un va déranger quelqu'un pour avoir le plaisir de
gérer. Merci Thierry. Le journal écrit également, hein, politique, économie, sociale, mécontentement et frustration. Alors finalement, est-ce que c'est sur peut-être la base alors de ces mécontentements et frustrations que les Togolais veulent maintenant partir?
Est-ce que c'est une question de frustration, c'est une question de mécontentement? Vous savez, dans tous les pays, il y a des gens qui quittent. Hein. Il y a cette histoire de migration. Vous allez voir, il y a assez de Chinois qui vont s'installer aux États-Unis. Hein. Il y a assez d'Américains qui vont s'installer en Chine. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques américains parce qu'ils trouvent qu'en Chine, vous pouvez vous installer facilement.
Mais là, c'est pour faire des affaires et on revient.
Oui, vous pouvez aller vous installer. Vous avez une main-d'œuvre assez encourageante et là, vous faites des affaires. Maintenant, au Togo, il faut se demander pourquoi les gens partent. Moi, je ne parle pas de mécontentement, je ne parle pas de frustration, mais je pense que les gens quittent parce que les gens ne se sentent pas en sécurité.
Ouais, est-ce que c'est vraiment le cas?
Oui,
quand vous parlez de sécurité,
quand je parle de sécurité commissariat, oui. Hein, ouais, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas en sécurité. C'est qu'au Togo, c'est la situation est devenue telle que vous pouvez avoir peut-être un peu d'argent tout de suite. Maintenant, après, vous n'avez plus rien. Vous allez devenir mendiant. On ne sait pas comment, pourquoi ça se passe. Je ne sais pas si Thierry aussi remarque la même chose, constate la même chose. Vous avez un peu d'argent tout de suite. Vous faites des affaires, vous pouvez faire des affaires. Moi, je suis un homme d'affaires, mais c'est ce que les gens me racontent. Vous faites des affaires, tout de suite, vous gagnez un peu. Après, vous n'avez plus rien. Pendant des mois. Alors que ce que vous avez eu à économiser, vous l'épuisez tout de suite. Et après, vous allez encore avoir encore un peu. Donc, vous ne pouvez pas vous construire sur cette base-là. Vous pouvez avoir été à l'école, vous pouvez être peut-être un très bon un homme d'affaires, mais vous retrouvez dans des situations comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui gagnait 400 000 dans une structure dont je tais le nom, mais qui est allé au Canada actuellement, qui vit au Canada actuellement. Et je lui ai demandé pourquoi tu es parti. Il dit, mais c'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce qu'on va me chasser. Je ne sais pas comment le pays sera demain. Donc, quand il y a ça un peu, donc sur le plan social, le problème fondamental, c'est que l'argent ne circule pas. C'est tout. Quand l'argent circule et que tout le monde va à ses occupations et fait ses affaires, et c'est que demain il y aura telle activité, personne ne va attendre que l'État ou organise un quelconque concours de fonctionnaires, tout ça. Parce qu'on sait que l'argent circule, on sait que demain il y a une couverture médiatique, demain il y a des organisations internationales qui font des conférences de presse, demain il y a des ONG, il y a la société civile qui fait ça. Quand ça tourne comme ça, là, moi je pense que personne ne se sentira en sécurité. Donc le fait que l'argent ne circule pas et que les activités peinent à décoller, mais je pense que c'est là où les gens se disent, mais il faut partir, il faut aller se chercher ailleurs. Et là, vous cherchez ailleurs. Qu'est-ce que les gens veulent? Quand je parle d'insécurité, c'est quoi? C'est la retraite. Hein? C'est la retraite. Les gens se disent que moi, quand je vais ailleurs, je peux me garantir une certaine retraite. Je vais travailler, les gens vont aux États-Unis, ils ne gagnent pas grand-chose. Mais ils se disent qu'au moins, il y a la sécurité sociale là, qui me protège et je peux passer toute ma vie là-bas, je peux mourir là-bas. Et les gens, et on connaît assez de gens qui sont là, mais qui ne sont pas devenus des riches, qui sont devenus riches, mais qui vivent, qui arrivent quand même à joindre le debout. C'est ça qui est difficile. On a toujours dit qu'en réalité, les autorités togolaises, on les apprécie pour ce qu'elles sont en train de faire sur le plan économique et tout ça. Mais elles doivent savoir qu'on ne peut pas construire une croissance avec une population pauvrissime.
Et Thierry, c'est vrai que quand on suit les résultats alors d'Afrobaromètre, on comprend que la tranche d'âge qui est concernée justement par ce départ, c'est de 18 à 35 ans, mais c'est des jeunes, là, c'est ce qu'on comprend, c'est des jeunes. Est-ce que finalement, ce n'est pas risqué pour l'avenir du pays?
Oui, vous savez, le gouvernement a toujours dit qu'il axe ses actions sur la jeunesse. Mais si cette jeunesse ou ces jeunes quittent un à un le pays, c'est qu'il y a un réel problème. Vous savez, il n'y a pas que les jeunes qui partent. Hein. C'est parce que les gens sont dépassés. Et ailleurs, il y a toujours des problèmes politiques. Mais on développe le pays, on construit le pays, on bâtit le pays. Il y a des réalisations ici et là. Chez nous, on est limité dans tout ce qu'on fait, ou encore on n'a pas une vision lointaine. Quand on veut faire quelque chose, on fait les choses petitement. Alors que la construction d'un pays, il faut le projeter dans le temps. Donc tout cela, les gens commencent par comprendre que ils n'ont pas leur avenir dans le pays, parce que dans l'opinion. Et c'est ça d'ailleurs qui est répandu, je vais le dire, peut-être ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais malheureusement c'est la réalité. Si vous ne faites pas partie du parti au pouvoir, peut-être que vous n'aurez pas un poste, vous ne gagnerez pas à un concours. Si vous n'avez pas des tontons, des tatas qui sont des ministres ou qui sont à des postes de responsabilité, peut-être qu'on ne vous trouvera même pas un stage.
On dirait aussi qu'il y a des gens qui font partie alors du parti au pouvoir, mais qui n'ont pas de poste, d'emploi.
Mais attendez, et quand il y a campagne dans le pays, vous voyez que toute l'administration est paralysée pratiquement. Mais tous ces gens-là vont retourner dans leur village pour battre campagne pour le parti au pouvoir. Donc, il y a ce sentiment-là de redevabilité Alors, si vous n'avez pas gagné votre concours, si vous n'avez pas gagné votre poste, si vous n'avez pas gagné votre nomination grâce au parti au pouvoir, et pourquoi quand il y a campagne, vous êtes tenu de retourner au village pour battre campagne pour le parti au pouvoir? Si vous avez véritablement gagné votre poste, votre poste par compétence, je ne crois pas que il y a cette obligation-là. Même si on ne le dit pas, les gens pensent qu'ils sont redevables à ceux ou à celles grâce à qui ils sont là où ils sont. Malheureusement, c'est comme ça que notre pays fonctionne. Et tout cela retarde notre développement. Donc, tous ceux qui ne se retrouvent pas, ou du moins n'ont pas de tonton ou de tata, pour les faire propulser, pour les faire gagner des postes, s'il y a occasion, paf, ils sont les premiers à prendre un avion, ou encore, peu importe le risque, à prendre le bus et partir en aventure. Malheureusement, c'est dans ça que nous vivons. Même, voilà.
Est-ce que ce n'est pas une situation qui doit inquiéter l'État? Parce que quand déjà les bras valides vident le pays, et que, puisque déjà la tranche d'âge, je le disais tout de suite, que c'est pratiquement la jeunesse, et c'est la jeunesse qui quitte pour l'extérieur, et là, le souci, c'est que on ne cherche plus à revenir au pays, on veut construire sa vie de l'autre côté. Et est-ce que l'État ne doit pas prendre justement ses responsabilités pour taper du poing sur la table et changer les choses?
Oui, l'État peut taper du poing sur la table, mais les gens vont vouloir toujours partir. Mais si l'État arrive à changer un certain nombre de choses, il y aura peut-être certaines personnes qui ne vont pas vouloir partir. Les gens partent parce qu'ils ne se sentent pas trop en sécurité. Vous savez, quand les gens disent que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas seulement le Togo, parce que tous les pays africains, moi je suivais un truc sur le Haïti l'autre fois, on disait que la population haïtienne, avant même cette guerre qu'ils sont en train de vivre, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont en Asie régulièrement parce que leur salaire est tellement bas. Il y a des gens qui gagnent peut-être 100 euros par mois, mais quand ils vont peut-être à Dubaï, ils gagnent peut-être plus de 1000 euros. Donc ça leur permet d'avoir un peu d'argent à la maison, dans leur famille. Donc c'est pas seulement le Togo. Ce qui favorise ça, c'est quoi? C'est que c'est pratiquement la même chose dans presque tous les pays d'Afrique. Le Nigeria, parce que le Nigeria a une situation exceptionnelle, l'Afrique du Sud, parce que c'est construit par les Blancs, mais c'est presque la même chose dans presque tous les pays d'Afrique. On dira que le Bénin, oui, est en train de changer un peu, mais c'est pas, quand vous allez vivre dans le Bénin, vous savez que c'est une catégorie aussi qui a un peu d'argent. L'argent, en réalité, a un problème, surtout avec talent. Quand vous allez au Ghana aussi, c'est pratiquement la même chose. Au Sénégal, il y a une misère au Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent partir. Moi, je suis allé au Sénégal, c'est là où vous rencontrez même la misère. Et vous quittez Dakar pour aller à Fakti, peut-être vers ce côté, comme ça, c'est un exemple que je donne, mais vous allez une misère. C'est comme ce que vous rencontrez sur les routes togolaises, c'est la même chose que vous racontez. La pauvreté, vous arrivez à un endroit, vous croyez peut-être à Dankouin ou au fin fond de ce côté. Donc c'est presque la même chose. Pourquoi nous vivons ça? Parce que, nous n'avons pas de grandes industries, on a toujours dit, on n'a pas de grandes industries. On a des produits dans le sous-sol, on a le phosphate, on a tout ça. Mais on n'arrive pas à les exploiter. C'est ça le problème. Quand vous n'avez pas d'argent pour exploiter cela, vous ne pouvez pas construire de grandes industries. Alors l'argent vous manque. La deuxième chose, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien construire. Donc votre possibilité de création d'emplois va être toujours limitée. Et ce qui fait que les pays africains sont en train de souffrir. On n'arrive pas à avoir de grosses cagnottes sur le marché financier international pour pouvoir investir dans le pays. Vous voyez, le président de la République, il fait beaucoup de voyages, tout ça. C'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour. Parce qu'il veut se distraire. S'il veut se distraire, il va faire des voyages privés. Mais c'est pour aller chercher de l'argent. Mais est-ce que sur le masque, quand il va, est-ce qu'on lui permet d'en avoir beaucoup? On ne peut pas lui permettre d'en avoir beaucoup. Parce que quand on va lui permettre d'en avoir beaucoup, il va piquer la grosse tête. Parce que c'est comme ça, raison, on va piquer la grosse tête. Donc, on va dire, il va construire un Eldorado. Les Occidentaux ne veulent pas ça. Parce que vous construisez un Eldorado, leurs produits vont aller où? Leur marché. Ça va être beaucoup limité. Donc, il y a tout ça aussi qui ne nous arrange pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut trouver de petits moyens pour injecter l'argent dans le pays. Regardez, on a. Dans le culturel, par exemple, il n'y a plus d'activité. L'État peut cibler les domaines. pour injecter beaucoup d'argent dans chaque domaine. Avant, il y avait assez de mouvements culturels dans le pays. Vous allez à l'Institut Goethe, vous allez à il peut le confirmer. Vous allez à l'Institut Goethe, peut-être il y a demain tel artiste qui a tel événement, peut-être il y a vernissage ici, il y a tout ça. Il y avait c'était des mouvements. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Or, c'est des événements qui permettent de faire circuler parce qu'il y a la logistique qui va prendre, il y a peut-être la communication qui va aussi avoir sa part. Donc, ça, les ménages sont indirectement touchés. Donc, du moment où il n'y a pas d'événement, il y a problème. Pourquoi les États-Unis impressionnent tout le monde? Parce qu'il y a tellement d'événements. Quand vous allez en France, c'est des milliers d'événements par an. Ça fait bouger le pays. Le week-end, comme ça, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je dois aller en week-end parce qu'il y a tel événement ici. » Ça, il y a le transport qui prend ce qui doit lui revenir. Il y a la communication qui prend. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de secteurs qui sont touchés. Donc, du moment où il n'y a pas ça dans le pays, au Togo, ça ne bouge pas. Les restaurants vont, les gens vont créer des restaurants, mais ça ne peut pas bouger. Vous allez, je le dis toujours, vous allez le soir, vous circulez un peu dans Agouin. Il y a assez de fast-food aujourd'hui. Mais ces fast-food ne sont pas pleins parce que les gens n'ont pas de liquidité. Donc, l'État peut changer les choses. Si l'État a la volonté, cette réelle volonté d'injecter l'argent dans tous les secteurs. Regardez par exemple, je suis venu entendre dire on organise dans un pays là, on organise un concours pour les boulangers. Et il y a, c'est des secteurs qui financent ça. On organise un concours pour les boulangers. Donc presque tous les boulangers de ce pays participent à ce concours. Ça fait, c'est une dynamique. On prend par exemple artisanat. Il y a combien de concours ici? Il y a, bon, sport, mais n'en parlons pas. Il y a, ça, c'est un autre domaine. Il y a assez de domaines qu'on peut revitaliser. Donc si on n'a pas ça, si on n'a pas d'imagination pour ça, là, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, je dis, les ministres qu'on nomme là, on doit leur demander leur cas de chance. Toi, comment tu vas faire pour faire vibrer ton domaine sur le plan économique? Si tu peux être ministre de l'artisanat et organiser un certain nombre de choses pour faire rentrer l'argent dans le pays et injecter l'argent dans ton domaine. Et ça va permettre à ce qu'on ait un certain dynamisme économique. Sinon, s'il n'y a pas ça, les gens vont partir. Ce n'est pas le Togo seul qui vit la même situation. Les Béninois partent, les Sénégalais partent, les Zambiens partent. Mais c'est parce que les Africains, ils ont un problème. En ce qui concerne, vous n'allez pas, je n'insulte personne, nous avons un problème, le modernisme là, on n'arrive toujours pas à percer le fond.
D'accord. Quoi faire?
Je disais tantôt que l'argent ne circule pas. Ou encore, le peu qui circule, on passe par tous les moyens pour l'empêcher de circuler. Je m'explique. Vous voyez, aujourd'hui, on demande à tous ceux qui se sont installés à la plage de vider les lieux, de quitter les lieux. Mais ces gens-là, ils ont fait des investissements pas possibles. Nos autorités étaient où quand ces gens-là s'installaient? Les gens ont même fait des piscines à la plage là-bas. Vous et moi, nous connaissons combien peut coûter une piscine. Mais on laisse les gens s'installer et du jour au lendemain, on leur demande de quitter. Alors que depuis que ces gens-là se sont installés, avant à Lomé, déjà à 17h, 17h30, vous ne pouvez même pas oser quitter la plage à pied du côté de Palm Beach et marcher jusqu'à au niveau de l'hôtel La Paix. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, parce que il y a de ces installations-là que vous avez la possibilité de le faire. Aujourd'hui, l'insécurité qui existait à la plage ou sur nos côtes n'est plus aussi frappante que ce que nous avons connu par le passé. On demande à ces hommes, à ces femmes-là de quitter. Et on ne leur propose rien.
Thierry, là,
Parce que tout simplement, quelqu'un est nommé je ne sais quoi, et cette personne-là raconte que parce que elle a voyagé, elle est partie voir dans un autre pays comment on a fait ci et ci à la plage. Mais si c'est ça le projet en question.
Mais il faut le leur dire.
On demande aux gens de quitter, mais sans qu'on ne leur dise si vous quittez, voilà comment nous allons occuper la plage. On ne leur dit rien, mais on leur demande tout simplement de quitter. Et on ne leur propose même rien. Mais, vous et moi là, on n'a aucun lieu de distraction les dimanches ou les samedis. Si, quand on est débordé, on veut prendre un peu d'air là, c'est à ces endroits que nous nous retrouvons. on demande à ces gens-là de. Il y a un maire qui me disait la fois dernière qu'il y avait des prostituées dans leur commune, mais du jour au lendemain, quand ils visitent la plage, ils constatent que ces femmes-là, c'est elles qui font le service là-bas. C'est aussi la création d'emplois. C'est permettre à l'argent de circuler. On nous étouffe de tous côtés. On ne respire plus. Quand on dit que l'argent ne circule plus, Pascal, peut-être ce matin quand vous vous êtes réveillé, je ne sais pas combien de personnes vous a déjà sollicité. Pascal, est-ce qu'on peut trouver 1000 francs avec vous, 2000 avec vous ou 200, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de quoi à préparer pour mes enfants quand ils seront de retour de l'école. C'est ça le drame du Togo. C'est ça le problème. Ça dit que on investit plus dans la politique que de s'occuper de des problèmes réels.
D'accord.
Alors que en réalité, c'est la politique qui est censée trouver de solutions à ces problèmes-là. Bon, chez nous, tout est bloqué.
D'accord, vous parlez de politique, ça nous donne la transition de parler justement de la politique. Et politique, vous savez qu'il y a cette campagne de sensibilisation qui a été lancée tout récemment sur la nouvelle constitution. Il y a le journal Canard Indépendant qui revient bien sûr alors sur le sujet. Le journal écrit « Popularité de la nouvelle constitution ». Cette nouvelle campagne de sensibilisation qui discrédite le gouvernement. On sait aussi qu'il y a des contestations, vous avez, on a pris même d'ailleurs avec aussi le premier meeting contre même d'ailleurs cette nouvelle constitution, c'était le dimanche dernier. Fébrin, est-ce que finalement, pour cette campagne dont on parle, est-ce que tel que le journal Canard Indépendant l'a écrit, finalement, est-ce que ça discrédite vraiment le gouvernement?
Bon, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Moi, je trouve que le gouvernement se dit, d'ici quelques semaines, ce sera la fin. Je ne peux pas dire ça, mais la fin définitive de la 4e République. Et ce sera juste la 5e République qui va s'appliquer, qui va régir tout le pays. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure pour que tout le monde sache que nous sommes dans une nouvelle constitution et nous sommes tenus de respecter le contenu de cette constitution. Moi, je pense que le gouvernement s'est réveillé comme il devrait se réveiller. Peut-être que les gens se diraient pourquoi on ne l'a pas fait à temps, pourquoi on ne l'a pas fait peut-être le lendemain de la promulgation de cette constitution. Mais je pense que les institutions ont commencé par être s'installer ou être lancé. Vous voyez le Sénat qui est en train d'être mis en place avec son bureau et qui est mis en place avec son bureau. L'Assemblée nationale qui fait déjà son travail. Bientôt, on aura le président du Conseil ou le président de la République. Mais la vie institutionnelle fondamentalement au Togo va changer. Donc, tout le monde est tenu de connaître un peu comment le pays va évoluer sur le plan institutionnel. Alors, il revient au gouvernement de lancer les travaux et après la société civile, la direction de la formation civique, les journalistes vont poursuivre le travail. Nous l'avons déjà commencé depuis le lendemain de la promulgation et nous continuons de le faire et nous saluons déjà ce que le gouvernement fait, les explications qui sont données. Nous, au niveau de notre centre de recherche de géopolitique, Philomène Tekoagbo, nous ne pouvons que saluer cela et accompagner l'État parce que nous sommes des républicains, on accompagne l'État dans tout ce qu'il fait. C'est normal. Pour ceux qui contestent, c'est la démocratie. Moi, je me dis que ceux qui contestent la Constitution, c'est leur droit le plus absolu. Il faut les laisser contester. C'est-à-dire la démocratie, l'article 2 de la Constitution de 2024, du 6 mai, bien sûr, parle de la démocratie gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, si les gens veulent contester la Constitution, surtout légalement, il faut leur permettre de contester la Constitution.
Et Thierry, oui, il y a des contestations. Il y a aussi une campagne qui a été lancé pour plus expliquer cette nouvelle constitution à des Togolais ou aux populations, mais chacun est dans son rôle finalement.
Oui, chacun est dans son rôle. Mais est-ce que ce qu'on explique aux gens, les gens le comprennent véritablement? Parce que il y a eu déjà des tours d'explication. Je crois sur votre antenne ici, on a mobilisé des ministres d'éminents professeurs des universités publiques de notre pays. On a mobilisé des acteurs de la société civile, des membres du gouvernement et les députés. Mais si on continue d'expliquer, peut-être que les gens ne veulent pas comprendre ce qu'on leur explique.
Comment ça?
Ah oui, parce que si tout ce beau monde-là avait déjà expliqué ce qu'on explique encore aujourd'hui, cela voudrait dire tout simplement que les gens ne veulent pas comprendre ce qu'on leur explique. Alors, ça voudrait dire qu'il y a un problème quelque part. Et peut-être c'est ce problème-là qu'il faut chercher à résoudre. Alors, ceux qui expliquent, ils ont le droit d'expliquer. Ceux qui contestent, ils ont aussi le droit de contester. Mais je crains que ceux qui contestent, on ne les empêche du jour au lendemain de continuer de contester. Et quand ça arrive, ça fait basculer encore dans notre pays, dans un cycle de violence. Alors, donc nous allons passer tout notre temps ici-bas à ne connaître ou à ne faire que ça. C'est la question que moi, je me pose. Il faudrait qu'on pense à notre épanouissement. Il faudrait qu'on pense à notre bien-être. Il faudrait que on soit fier de notre pays. Aujourd'hui, même avec les éperviers, on ne sent plus la détermination, la fibre patriotique. Il y a un désengagement total. Aujourd'hui, dans l'opinion, c'est à ça que le Togolais s'accroche. Vous voyez, donc, il y a un désintéressement total de la chose publique. Je crois qu'on nous parle du fait que l'opération Togo propre va reprendre. Nous, quand on était encore petits, c'était des opérations qui marchaient. Mais depuis des années, quand on parle de ces choses-là, si le gouvernement même ne mobilise pas des gens, personne ne s'intéresse. C'est que les gens s'en foutent pas mal. C'est malheureusement ce dans quoi nous sommes. Je ne sais pas quel travail qu'il faut faire pour que tout le monde se sente concerné, que ce pays, c'est à nous tous.
D'accord. Fimer, c'est vrai que quand on prend cette nouvelle constitution, oui, il y a des contestations. Et les contestataires, ce qu'ils exigent, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait du retrait pur et simple alors de cette nouvelle constitution. Mais est-ce que finalement, on pourra y arriver?
Cette histoire de retrait là-bas, je ne pense pas que ça puisse être possible. Donc, le jour où on va retirer cette constitution, ça veut dire que l'État, nous n'avons pas un État. Ça veut dire que l'État est faible. C'est le président de la République du Togo qui a promulgué la constitution. Donc, c'est devenu la loi fondamentale de la République. Ce n'est pas une simple loi qu'on a fait voter, ce n'est pas une simple loi qu'on a fait adopter. C'est devenu la loi fondamentale de la République. Donc, exiger à ce qu'on le retire, si le président le retirait, ça veut dire qu'il n'est plus fort. Hein. Il perd toute sa puissance et tout son pouvoir. Donc, ce retrait-là, je ne pense pas que ça puisse être possible. Bon, je ne pense pas que, je sais pas pourquoi les gens demandent à ce qu'on retire, parce qu'ils savent que ça ne va pas être possible. Je dis, la constitution américaine est toujours contestée. Les gens demandent à ce qu'on révise la constitution américaine. Les gens ne sont pas d'accord parce que c'est à peine 570 personnes, 538 personnes qui l'ont votée. Hein. La constitution américaine, la constitution française, elle est de 58 ans, de 1958, est toujours contestée. Hein. Les gens, Mélenchon parle de 6e République. Les gens ne veulent plus de cette République. Oui, c'est-à-dire, c'est le charme de la chose, du droit, c'est de toujours contester, parce que le droit est toujours ouvert. Les devoirs, je veux dire quelque part que les devoirs de droit, c'est deux parties. Après l'introduction grand 1, grand 2, il n'y a pas de conclusion, parce qu'on laisse toujours le débat ouvert. Donc, le fait qu'on conteste, c'est normal. Mais moi, je lis chaque fois la Constitution, mais je me dis qu'en réalité, cette Constitution, vous allez m'excuser, cette Constitution, je pense que ça va être... Je me demandais si Fonia Singbe, lui-même, il a bien lu la Constitution, parce qu'en réalité, cette Constitution du régime parlementaire, avec ça, c'est un peu dangereux pour Fonia Singbe.
Comment ça?
Moi, c'est dangereux un peu, parce que avec ça... Si Fonia Singbe, c'est lui qui va être le prochain président du Conseil, il ne tiendra qu'à un fil. il ne tiendra qu'un fil. Parce qu'en réalité, sous la 4e République, il est président de la République. Indépendamment des résultats des législatives. Il peut perdre les législatives, mais garder toujours son pouvoir présidentiel. S'il peut perdre, il perd les législatives, il est le président de la République. Si c'est l'opposition qui gagne, la majorité gagne avec la majorité, et même n'importe qui premier ministre. Parce que la constitution de la 4e République 92 dit le président de la République nomme le premier ministre. Ça veut dire qu'il peut nommer n'importe qui premier ministre. En abstention faite des résultats des législatives. C'est ça la constitution de 1992. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec François Mitterrand. François Mitterrand en 1986, il est élu le président de la République. Il est de la gauche. En 86, on organise la législative en France. C'est la droite qui remporte. Il nomme Chirac premier ministre, mais il garde toujours son fauteuil. Et deux ans après, il s'est encore battu pour avoir un nouveau mandat de 7 ans à la tête de la France comme président de la République. Il est toujours là. C'est la même chose avec la constitution de la 4e République. Ce qui s'est passé avec Eyad Emma en 94, il avait perdu la majorité presque. Mais il était toujours président. Il pouvait nommer Agoubon, mais il serait toujours resté président de la République. Mais là, avec la constitution de 2024, Fonia Singwe ne tiendra qu'à un fil. Ça veut dire le jour où Uni va aux élections et Uni perd les élections, ce sera fini pour Fonia Singwe. Fonia Singwe perd le pouvoir définitivement. C'est-à-dire quand l'opposition va avoir la majorité ou quand c'est une coalition de partis qui va aller à cette élection et que cette coalition va gagner en s'inspirant de l'article 47 de la nouvelle constitution, le chef de cette coalition ou de ce parti d'opposition va être président du conseil. Et en ce moment, Fonia Singwe sera où? Fonia Singwe ne sera plus président du conseil.
Mais c'est intéressant ce point, c'est que beaucoup de gens pensent que pour ce qui concerne les élections dans notre pays, que ces élections, on sait comment ça se déroule. Donc finalement, ça veut dire que le parti au pouvoir sait que peu importe la situation, on gagnera.
Ah oui, c'est ce que Firmin a oublié de dire aux auditeurs et aux auditrices. Si M. Fonia Singwe, le président de la République, accepte cette 5e République, c'est parce qu'il est certain, c'est vrai, il n'est pas Dieu, mais il est certain de toujours gagner les législatives. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, à part peut-être dans les années, les législatives, je crois en 93 ou 94, que le CAR et l'UTD ont gagné. Et je veux parler de l'opposition, où l'opposition a la majorité. Depuis, l'opposition n'a plus gagné une élection législative. Donc, si on nous propose la 5e République aujourd'hui, c'est parce que le parti au pouvoir est convaincu qu'il gagnera toujours et toujours les élections. Donc, les partis de l'opposition sont avisés. C'est à eux maintenant de s'organiser pour renverser les choses. Mais quand je vous dis, je crois l'avoir dit il y a quelques minutes, que quand il y a campagne électorale, toute l'administration ou presque est mobilisée pour battre campagne pour avec les moyens de l'État pour le parti au pouvoir, dans ces conditions, comment l'opposition va gagner? Parce que nous sommes aujourd'hui à 113 députés. Pour avoir la majorité, il faut avoir à plus de 113 divisé par 2. Je crois que 100, ça doit être 55 ou 50 et quelques.
Peut-être 60.
Alors, avec ce que nous connaissons aujourd'hui, par rapport à l'organisation de l'opposition togolaise, seul un parti de l'opposition a une véritable représentation sur le territoire. Et je veux parler de l'ANC. Les autres, quand il y a campagne ou quand il y a élection, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de partis qui ne positionnent pas de candidats dans toutes les circonscriptions. C'est ça aussi. Il faudrait que l'opposition puisse travailler et recruter de nouveaux militants, de nouveaux adhérents pour que on puisse.
Oui. Est-ce que déjà après, avec ce développement de Thierry, est-ce que ceux qui disent que oui, cette nouvelle constitution est instituée alors pour que le président Faure Gnassingbé soit au pouvoir éternellement, est-ce que finalement ils n'ont pas raison?
Non, justement, moi je trouve pas qu'ils n'ont pas raison parce que je le dis encore, avant il avait deux cordes à son arc. Il avait la législative et la présidentielle. Maintenant, il n'a plus la présidentielle. Donc ici, le travail va être beaucoup plus ardu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il va demander à ce que chaque député va véritablement travailler pour être reconduit. Ou c'est-à-dire, les acteurs ou qui, les futurs candidats pour les législatives pour unis vont être, je ne sais pas, travailler pour être véritablement, pour pouvoir gagner sur le terrain. Parce que quand les députés ne vont pas gagner, c'est faux d'essayer de récupérer. Or, avant, les députés pouvaient ne pas gagner. Il va aux élections présidentielles, lui met bas campagne avec tout ce qui l'entoure, il peut gagner facilement. Mais là, il ne tient qu'à un seul fil. Et c'est, moi, je ne pense pas que ce soit un truc d'éternellement, parce que même si aujourd'hui, Unir dit on ne veut plus de Faure Gnassingbé, président de Unir, c'est aussi un problème à son
niveau. C'est possible, Pascal, ça serait difficile pour l'opposition de gagner dans le contexte actuel si on se bat, ne serait-ce même que, même si le jeu est sincère sur le découpage électoral. Avec ça, déjà...
Ah, le découpage est déjà biaisé, c'est ce que vous voulez dire?
Tout à fait. L'opposition a toujours contesté le découpage. C'est comme si un vote dans le sud du pays vaut moins que un vote dans le nord du pays.
Je pense qu'entre-temps, il y a la NC qui a fait sortir justement
tout à fait, et d'autres partis politiques. Oui, ne serait-ce que sur, même si le jeu est clair, ne serait-ce que sur la base du découpage électoral, ça serait difficile pour l'opposition.
Peut-être aujourd'hui, avec le terrain, Uni travaille activement sur le terrain. Si l'opposition aussi veut gagner, que l'opposition travaille sur le terrain. La deuxième chose, quand les gens disent, Faure Gnassingbé veut s'installer éternellement au pouvoir, mais c'est pas Faure Gnassingbé qui a commencé. Mais regardez, je l'ai lu l'autre fois, la constitution de Sivanou Sonoumpio de 1961. Sivanou Sonoumpio, l'article 33, dit que le président de la République est rééligible. Il est élu pour un mandat de 7 ans et il est rééligible. Ça veut dire, il peut mourir au pouvoir, il peut aller, il peut être comme Paul Biya, il va aux élections à chaque mandat. Sinon, le mandat n'était pas limité. Donc, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a commencé ça. Dans le régime, je l'ai dit, c'est inspiré de la constitution de Sivanou Sonoumpio. Donc, Sivanou Sonoumpio, c'était un homme très puissant et que personne ne pouvait contester à l'époque. Oui, c'est lui qui nommait les ministres, pas décret, fixait pas décret leur pouvoir. Les ministres étaient responsables devant lui. Ce que nous ne trouvons pas dans cette constitution de 2024.
Merci beaucoup, Firmin et Thierry. Et merci à vous. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. On va écouter aussi nos auditeurs sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Et 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Et aussi sur notre numéro WhatsApp, on peut lire aussi leur réaction, 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous allons écouter nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Notre premier auditeur se signale déjà. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour Plateau.
Oui, allez-y.
Vous savez, ce matin je suis très 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 d'accord avec M. Firmin, mais pas sur tous les points. Il disait que le président de la République, disons Faure Gnassingbé, s'il ne gagne pas les élections législatives, il va perdre le pouvoir. Ça, c'est vrai. Il a parfaitement raison. Mais là où lui, qui organise les élections, le Togo, le pouvoir ne gagne jamais et perdre. C'est pour cela qu'ils ont instauré ça. Au moins d'ici 3-4 mandats, là, l'opposition va gagner. Donc, secondo, il disait qu'il n'y a pas de gouvernement. Là aussi, il a raison, hein. Il a raison. Même si l'opposition s'amuse. On dit les enfants manquent de riz, d'accord. C'est pour cela que le gouvernement ne va pas débarquer le pays. Regardez la voie qui quitte le Limousin jusqu'à Massalaki, là. Plein de poussière, une belle rue comme ça. à côté de camp militaire, derrière, jusqu'à... Mais c'est pas possible. Le maire avocat est en train de racler. Nous, on racle, on racle, on rentre. Finalement, ça va être un grand trou commun. Mettez bon sur lui.
Merci à vous aussi, Monsieur Gado, pour votre intervention. Bonjour le plateau, bonjour Monsieur Pascal. Le Togolais est étouffé de tous côtés. Le gouvernement s'en fout de la population. Firmin soutient toujours le gouvernement et 5e République. On comprend que c'est son job aussi. Le Togolais ne dit plus rien. Et faites ce que vous voulez. C'est Monsieur Kounyou depuis Agoué. Allô.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Mahouto. Oui, Monsieur Mahouto, allez-y.
Oui, vous savez, moi je ne suis pas d'accord. Le régime parlementaire n'est pas concerné au Togo. Le régime parlementaire est concerné dans les pays où les gens sont fortes, quoi. Montrez-moi dans ce pays quel est forte menace indépendante qui peut travailler normalement. Ça ne peut pas passer au Togo, quoi. Ceux qui dirigent le Togo, ils n'ont plus rien à donner au Togolais. Ils n'ont qu'à accepter la tenance. C'est difficile, quoi. Rien ne marche dans le pays. Dit que le pouvoir va arriver au pouvoir avec le régime parlementaire. C'est beau. C'est du travail du cerveau. Ça ne peut pas passer. Et puis en France, au cours des élections, tout le président est mobilisé pour faire campagne au parti pouvoir. C'est ça qu'il faut comparer, quoi. Merci, bonne émission.
Monsieur Mahouto, bonne journée à vous et merci aussi pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Concernant les déplacements des jeunes, c'est manque du travail. Tu vas fréquenter pour avoir tous les diplômes recommandés et formations, mais si tu n'as pas bras longs, hélas, tu es obligé de faire aventure pour au moins trouver à quoi à manger et supporter un des parents. C'est Amidou qui nous écoute depuis Dapaon, 90. 86 35 35. Allô?
Allô? Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est bien.
C'est Monsieur Kofi?
Monsieur Kofi.
Oui, allez-y. Ah, Monsieur Kofi, vous êtes parti. Nous allons vous demander alors de revenir. 90 86 35 35. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile, comment vous allez?
Oui, togolaisement.
D'accord, allez-y.
Bon, mais bon, on voit que mon frère Pimet, il ne veut jamais laisser Sylvanus Olympio se reposer, même étant assassiné tragiquement dans sa tombe. Pourquoi quand il parle de ce truc de 5e République-là, il fait recours toujours à Sylvanus Olympio? Moi, je ne le comprends pas. Sylvanus Olympio ne fait pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Togo. Il dit qu'il connaît ce soupe, mais il a quel âge? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il veut toujours des choses comme ça? Si tu ne peux pas nous venir débattre, nous dire quelque chose de potable, mais il faut rester à la maison.
Basile,
oui.
On veut vous écouter aussi se prononcer sur l'actualité. Dites-nous ce que pensez.
Ce que le régime fait, c'est facile, c'est qu'il ne fait pas d'élection dans le pays. Et rien de tout ça là, personne ne peut gagner une élection. Sinon, si eux-mêmes ils sont conscients qu'ils vont faire une élection, que quelqu'un va venir et gagner, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train d'insister là. Mais pourquoi est-ce que chaque fois il faut aller réveiller qui va nous tolérer dans sa tombe? Je ne comprends pas.
D'accord, merci Basile. Mais merci Basile pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Ce n'est pas une fierté pour nous de laisser nos familles derrière nous et venir se chercher dans d'autres pays. C'est pour pouvoir trouver quoi subvenir à nos besoins et à celles de la famille. Merci, c'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô? 90 86 35 oui. 35. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
Oui, Pélé, allez-y.
Je salue le plateau. J'ai écouté tout à l'heure, M. Firmin disait qu'il faut suivre le gouvernement, bien sûr, aider le gouvernement. Et il faut partager le bon sens. Hein. Je pense que le gouvernement a raté quelque chose qu'il est en train de se rattraper, on ne sait pas. Je pense que je vais préparer est différent de j'ai déjà préparé. Oui, quand le gouvernement sort maintenant pour expliquer, il veut expliquer quoi, ce qu'il a déjà préparé. Mais une photo bille ne se fonctionne comme ça. C'est lorsqu'on veut préparer une photo bille
qu'on sillonne avec un avant-projet. C'est lorsqu'on il faut sillonner pour expliquer à la population, c'est ce que je vais vous préparer, est-ce que vous allez manger, c'est ce que je vais vous préparer, est-ce que vous allez manger. C'est comme ça que votre République fonctionne, M. Firmin. Va dire à un président fort, comme c'est lui qui t'a envoyé, va lui dire ça. Que c'est comme ça qu'on prépare une République. Dès la première République, quand vous parlez de syllabanisme, on vous interdit de ne pas énerver la population togolaise. Parce que la première République a été passée par un référendum. Quel que soit, il a tout le pouvoir, il a tout le pouvoir. C'est le peuple qui a dit, c'est le peuple qui a conféré ça. Il faut comprendre ça. C'est le peuple qui a dit que M. Sylvain Sonkyo, vous avez le pouvoir. Maintenant, qui a dit à Président Faure que la 5e République lui appartient? Qui a dit ça? C'est, vous croyez que 10 personnes disent, si on vous demande qui a écrit, donne-moi 2 Togolais, 3 Togolais qui ont écrit la 5e République, tu ne les connais pas. Mais la 4e République, on a les noms. Vous voyez, c'est là où il y a du fou. Quand vous voulez construire une République dans ce désordre-là, qu'est-ce que vous attendez?
D'accord, merci.
Vous attendez quoi?
Oui, Pélé, merci. Merci beaucoup. On va donner la parole à d'autres personnes aussi. Bonjour Pascal et à tout le plateau. Pourquoi tous les journalistes là-bas savent bien écrire, bien que ce n'est pas les résultats qui sortent alors dans les unes qu'on proclame, et l'un d'entre vous dit à l'opposition d'aller travailler sur le terrain. Même si l'opposition n'a pas fait beaucoup de campagnes ou sensibilisations, la population est fatiguée du sud au nord. L'UNI ne pourra jamais gagner si les résultats ne sont pas truqués. C'est Prince Senaïa qui nous écoute depuis qu'on a quoi, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, je vous écoute, bonjour.
Allô?
Décidément, il ne nous écoute pas. Nous allons donner la parole à d'autres personnes. Allô?
Oh, par ça, je reviens.
Oui, Basile.
Oui, oui. On dit que non. Quand ça nous énerve, on rousse le temps, mais on est contre personne. Hein. Voilà. Mais on va prier. On n'a qu'à laisser Sylvano son métier. Mais pourquoi il ne cite pas le président Eyad Demas que c'est ton exemple contrat. Pourquoi c'est Sylvano Sonepio qu'il cite toujours? Mais il n'a au moins lui, le président a demandé, lui, personne ne l'a assassiné. Et il peut donner son exemple. Pourquoi c'est le fou Sylvano Sonepio qu'on a assassiné tragiquement? Il vient toujours, c'est ton exemple qu'il donne. Moi, je ne suis pas d'accord là. Je ne suis pas d'accord sur ça.
Oui, c'est votre droit. C'est votre droit de ne pas être d'accord, Basile.
Non.
Oui, c'est votre droit de ne pas être d'accord. Et vous l'avez dit, merci. On donne la parole à une autre personne, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est
Monsieur Karim.
Monsieur?
Monsieur Karim.
Monsieur Karim.
Oui.
Allez-y.
Je m'appelle Damier.
Vous nous appelez Damier?
Oui, je m'excuse. Hein.
Oui, allez-y.
Il y a comme l'impression que les gens ne connaissent pas bien l'histoire du Togo. Moi, nous, on était petits, nos parents sont rentrés dans les greniers au temps de Sylvano Sonepio. Pourquoi nous, les gens sont allés et restés au Ghana? Au temps de QTV, quoi, et les partis là. Mais les gens ne lisent pas bien l'histoire. Pourquoi tout le monde s'attaque à faire une chose, M. Teko? Mais c'est son analyse personnelle. Il a lu l'histoire, il ne fait que parler de l'histoire. Et aussi, ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils connaissent de l'histoire du Togo. Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Kérim. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit au Club de la Presse, et que chacun donne plutôt son avis, son point de vue sur les sujets, et discuter, bien sûr, au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, M. Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je salue M. Kérim du passage. C'est M. Firmin. Je vous le disais, ce régime n'a jamais fait confiance à l'homme du Sud. C'est pourquoi, depuis que RPT unirait là, on n'a jamais passé le pouvoir à qu'on soit zélé du Sud, même zélé n'importe comment jusqu'aux cheveux. On ne peut pas te donner la présidence. C'est pourquoi ils ont taillé la conscience sur mesure. Vous allez voir, peut-être le PC aura tout le pouvoir. Le premier ministre va prendre le PC. Et le président va revenir avec toutes les faiblesses. Et vous allez voir, peut-être, en ce moment, comment donner encore cette force-là au CDC. La vérité est en train de tomber. M. Kérim l'a dit. M. Kérim est en train de consulter celui qu'on n'a pas appelé père de la nation. Que c'est lui plutôt son exemple qui est bon. On laisse l'exemple de père de la nation. Vous voyez le paradoxe. Donc, c'est pour dire justement que l'opposition fait son travail. L'opposition va expliquer, si on lui donne le temps, elle va expliquer à la population que la minorité qui s'accapare des biens, elle s'est accaparée de toutes les sociétés. Aviation, port, même les bouviers, le MLK l'avait dit. Je ne sais pas, c'est à cause de ça qu'on a nommé ministre, c'est-à-dire numéro un des peuples. Pour encadrer leurs bœufs. Les chiens, tout ça, là, c'est à eux. Maintenant qu'ils quittent, ils vont tout perdre. Donc, ils ont raison de voter la constitution, évidemment. Vous avez vu comment ils circulent, ils ne continuent pas à expliquer, les gens ne comprennent rien. Et un frère lui disait, quand on circule, les gens disent, et Timmy, non, on est que là, ouais. Il m'a dit, Tassio, l'opposition va continuer son travail, et aux prochaines élections, comme Firmin l'a dit, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est le peuple qui va le faire revenir en arrière par les élections. Je sollicite ce travail-là à l'opposition de convaincre le peuple, de gagner le territoire. Bonne émission.
Merci, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Il est déjà en ligne. Allô?
Allô? Allô?
Bonjour, Madame Essi.
C'est la dernière.
Oui, ça va. Voilà. On dit merci à Dieu.
Donc, je veux dire, l'autre, on n'a pas fait de coup d'État avant d'affronter les blancs, les colons, pour l'indépendance économique, politique, monétaire et tout ça là, avant que ses frères ne l'assassinent. Et ils sont là. Ceux qui l'ont assassiné sont toujours là. Et c'est pas normal. En assassinant le président, mais bon, le colon a bien donné une constitution au président et à demain. Il respectait la constitution comme la leur, mais il l'a jamais respecté. Quand ceci est arrivé en 2005, comme il est arrivé, il a bien juré sur une constitution, une Bible. Moi, je vais dire à Firmin de son frère à lui, il faut qu'il nous explique pourquoi il n'a pas respecté ses promesses. Ses promesses. J'avais demandé une fois aussi à Firmin, lors d'une émission, combien d'enfants il faut gagner à lui dans sa vie. Parce qu'on n'en entend jamais parler en Côte d'Ivoire. On ne sait pas combien d'enfants de lui qui font de la politique. Hein, on veut le savoir.
D'accord,
et puis tout merci. Ça là, moi je sais que, moi je vois que c'est parce que, je sais pas, c'est le pouvoir et l'argent simplement, mais ça ne nous arrange pas. Nous on a besoin d'alternance,
merci
et de démocratie.
Merci beaucoup Madame Essi. Madame Essi, c'est la dernière auditrice hein, pour le compte alors de cette émission de ce jour. Des réactions, il y a beaucoup de réactions même d'ailleurs sur notre numéro WhatsApp. Bonjour Pascal et bonjour le plateau. Les gouvernants nous poussent à bout. La raison est aussi le dégapissement que subit les opérateurs économiques installés à la plage et au bord de la lagune. Que faire si nous sommes dans cette situation? La solution, c'est de quitter. C'est Kokou qui nous écrit depuis Adido Gomé. Et également d'autres réactions, bien sûr, sur notre numéro. Mais nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Et Thierry, votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Non, je crois que le débat aujourd'hui, c'est la nouvelle République. C'est la nouvelle Constitution. Bon, on va continuer de suivre pour voir comment ça va se passer. Voilà.
D'accord. Oui,
vous savez, quand je suis devenu chroniqueur, j'ai compris qu'il y avait des codes dans ce pays qu'on nous avait servi depuis un moment. Et à ces codes, vous ne devez pas les toucher. Et dans ces codes-là, il y a Sivanus Olympio. J'ai compris avec le temps qu'il y avait beaucoup de choses qu'on cachait par rapport à Sylvain, président, le premier président. Nous déplorons tous les conditions dans lesquelles il a été assassiné. On ne devrait pas l'assassiner. Nous le respectons. Il avait un très beau programme économique pour le pays. Même en tant que chroniqueur, moi, je dois lire un peu les temps. Vous savez, ici, on est venu dans cette émission, on a parlé de François Mitterrand, on a parlé de Jacques Chirac. Pourquoi les gens ne se sont pas fâchés lorsque nous avons évoqué ces exemples-là? Pourquoi quand on parle de Sylvain Sonny, les gens se fâchent? Les gens, Sylvain Sonny, il est pour tous les Togolais. Nous, en tant que journalistes et chroniqueurs politiques, et en tant que aussi centre de recherche, nous devons un peu parcourir l'histoire pour voir ce qui se passait dans les années 50, dans les années 60, pour voir un peu aujourd'hui si c'est, les choses ont évolué, si c'est pas la même chose. Vous savez, je vais vous dire, par exemple, quand vous lisez l'article 2 de la Constitution de Sylvain Sonnipeu du 9 avril 1961, l'article 2 parle de la démocratie, dit le principe du gouvernement togolais, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Quand vous lisez l'article 2 de la Constitution du 6 mai 2024, on dit le principe de fonctionnement du Togo, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Donc, au fait, c'est presque la même chose. Nous, au niveau de l'ensemble de recherche, nous avons conclu que il y a des choses anciennes qui reviennent. Il y a des tests anciens qui reviennent. Donc, pour nous, c'est tellement charmant pour nous de faire de ces comparaisons pour voir comment l'histoire est en train d'évoluer. On nous a servi un certain nombre de choses. Nous nous disons, non, il faut évoluer avec le temps. Maintenant, on dit que Sylvain Soulipi, il était ci, il était ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'est tout ce que Yadema avait appris en politique, il y a des choses que Yadema avait apprises en politique, c'était Sylvain Soulipi, ces pratiques qu'il avait inspirées. Sylvain Soulipi, lorsqu'il a pris le pouvoir, de 1958 à 1961, il était un premier ministre, il était un ministre de la justice de la colonie, il était ministre des finances, il était ministre des affaires étrangères. Vous savez, il interdisait les manifestations, il empêchait l'opposition de se présenter aux élections, il emprisonnait les opposants, il les faisait torturer. Donc, on a vu ça avec le temps aussi, avec le gouvernement peut-être qui a suivi. Donc, vous voyez un peu, l'homme, il avait un beau programme économique, mais au finish, c'était un dictateur aussi. Sylvain Soulipi, c'était un vrai dictateur. Parce qu'il emprisonnait les opposants, il interdisait les manifestations, il interdisait les partis politiques. Donc, ce qu'on a reproché à Yadema, ce qu'on a reproché à ce régime, Sylvain Soulipi, c'est lui qui a commencé avant. Donc, quel est le problème? Nous, c'est l'histoire que nous sommes en train de parcourir. Maintenant, quand on dit, le pouvoir n'a pas tellement confiance aux gens du Sud, vous savez, quand vous voyez un peu l'entourage de Foy Nassingbé, parce que c'est les recherches que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, Foy Nassingbé, son secrétaire général, c'est qui? C'est une dame, Sandra Johnson. Elle n'est pas du Nord. Vous voyez un peu, quand vous voyez par exemple le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, il est du Sud. Et dans la nouvelle constitution, en cas de vacance de la présidence du Conseil, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président du Conseil par intérim. C'est une question de confiance. On a confiance. Mais là, c'est une société d'État aujourd'hui où les gens du Sud, sont mis en avant. Donc, il y a des clivages ou des codes qu'on nous avait servis qui ne sont pas véritablement vrais. Nous, dans nos recherches, nous nous rendons compte qu'on nous a menti, on nous a trompé. Alors, permettez-nous de faire ces recherches-là.
Merci, Firmin. Merci.
Et donc, bon week-end à tous.
Merci d'être passé alors dans cette émission, Thierry. Merci à toi aussi d'être passé alors dans cette émission. Merci, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne gapola.net, bien sûr, c'est ça?
Point TG,
bien sûr. Point TG. Fimete Kouagbo, chroniqueur politique, merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui Pascal. Nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions, et également vous qui nous avez écrit sur notre numéro WhatsApp. C'est vrai, nous n'avons pas eu le temps nécessaire alors de lire toutes vos réactions sur notre numéro WhatsApp. Merci à vous, merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.